Bonsoir, je voudrais tout d'abord qu'on remercie Auriel et son épouse qui nous offrent la Séouda de ce soir, le cours de ce soir, pour tout simplement leur réussite matérielle et physique et spirituelle pour toute la famille, qu'ils aient de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem.
Amen.
Sur la paracha de Bo, donc on sait que c'est la paracha qui vient finalement nous relater l'histoire de la sortie d'Égypte. D'accord, parce qu'il y a plein de sujets en réalité qui sont abordés dans la paracha de Bo. Mais quand je dis plein, c'est énorme, c'est extrêmement chargé. Pas simplement d'un point de vue historique, même d'un point de vue des concepts qui sont abordés. Par exemple, l'idée du pharaon qui endurcit son cœur, Dieu qui endurcit le cœur du pharaon. D'accord, donc la place du libre arbitre dans la vie du pharaon, c'est déjà un gros point d'interrogation. Ensuite, il y a bien évidemment les trois dernières plaies. Je ne l'ai pas dit, Shabbat, tiens. Vous avez remarqué quand même que la plaie des sauterelles, c'est la seule qui n'est pas annoncée par Dieu à l'avance. C'est la seule. Nos commentateurs nous font remarquer ça. Pour toutes les autres plaies, que ça soit des plaies où il faut prévenir le pharaon ou des plaies pour lesquelles le pharaon n'est pas prévenu, mais il n'empêche, Dieu dit toujours à Moshe quelle est la plaie qui arrive. Toujours, il lui annonce, voilà ce qui va arriver. Pour la plaie des sauterelles, il n'y a rien. C'est quand même incroyable. Rien. Il lui dit simplement, va voir le pharaon pour lui dire qu'il y a une nouvelle plaie qui arrive. Il ne lui dit pas laquelle. Et quand Moshe va voir le pharaon, il lui dit, si tu continues à t'endurcir et à refuser de libérer les enfants d'Israël, voilà que j'enverrai dans le pays des sauterelles.
Alors, comment il l'a su ?
C'est incroyable. C'est incroyable, nos Chachamim nous font remarquer ça, mais on lit ça tous les ans depuis 50 ans. Et en fait, la plaie des sauterelles, elle n'est pas annoncée par Hachem. C'est Moshe qui donne la plaie des sauterelles devant le pharaon, qui la cite, mais elle n'est pas annoncée par Akadosh Baruch Hu, celle-là.
Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est Moshe qui a décidé de la plaie ?
Alors, il y a deux interprétations pour répondre à cette question. La première nous dit, c'est Moshe qui l'a conceptualisée. Alors c'est extrêmement difficile de dire ça, parce que comment Moshe peut imaginer ou peut imposer une plaie ? C'est extrêmement difficile. Alors il faut rentrer dans tout un système où on sait que les plaies sont graduellement plus sévères les unes après les autres, et que si on considère que la plaie qui est juste avant, c'est
la grêle,
et que la grêle, comme on l'a dit dans la fin de la paracha précédente, la grêle n'a pas brisé tous les végétaux, puisqu'il y a certains végétaux qui étaient un peu tardifs en saison, ou certains végétaux qui étaient encore très souples et qui n'ont pas été brisés par la grêle, et qu'on imagine que chaque plaie est plus sévère que la précédente, et que Moshe se dit, tiens, j'ai constaté que les végétaux n'ont pas tous été anéantis par la plaie de la grêle, et là, on est presque à la fin. Qu'est-ce qui peut venir maintenant, se dit Moshe ? Eh bien, quelque chose qui vient anéantir le reste de la récolte. Et qu'est-ce qui peut anéantir le reste de la récolte, si ce n'est des sauterelles ? Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, qui est encore plus complexe à percevoir, à propos de cette plaie, il est écrit dans la paracha, quand Dieu l'annonce à Moshe, donc sans lui préciser, il lui dit, je vais envoyer une plaie contre l'Égypte afin que tu racontes à tes enfants et à tes petits-enfants derrière toi ce qui s'est produit en Égypte. Ok. Nos commentateurs nous disent, une plaie que l'on raconte à ses enfants et à ses petits-enfants, c'est nécessairement la plaie des sauterelles. La plaie des sauterelles porte en elle le récit que l'on fait aux enfants et aux petits-enfants. D'où est-ce qu'on voit ça ? Parce qu'on voit dans le livre de Joël, le prophète Joël, dans le livre où il y a l'histoire de la prophétie de Joël, où là-bas on nous dit que les plaies ont été envoyées, qu'une plaie de sauterelles s'est répandue dans le pays contre je ne sais plus quelle peuplade, et que là-bas il est spécifié, et tu le raconteras à tes enfants et à tes petits-enfants. Du coup, Moshe, de manière anachronique, sait qu'une plaie que l'on raconte à ses enfants et à ses petits-enfants, c'est la plaie des sauterelles. Donc il vient finalement dire au pharaon que c'est les sauterelles qui arrivent, alors que Dieu ne lui a pas annoncé, mais qu'il lui a simplement dit que c'est une plaie qui va s'abattre sur le pays, que l'on va raconter à tes enfants et à tes petits-enfants. Extrêmement difficile hein, comme interprétation. Pourtant, c'est celle la plus fréquente, c'est bien celle-là, la plus fréquente chez nos Chachamim. C'est la deuxième que je viens de vous citer. Mais il n'empêche, la question est bonne. La question est bonne. D'accord, la constatation est bonne. C'est la seule plaie, effectivement, qui n'est pas annoncée à Moshe. À l'avance. C'est la seule exception. Donc, c'est aussi un des sujets de la paracha de la semaine. Il y a bien évidemment toute l'histoire du Rosh Chodesh, c'est dans la paracha de la semaine. Le fonctionnement du calendrier, c'est notre paracha. La sortie d'Égypte, le Korban Pessah, le Hametz, la Matzah. D'accord, des questions qui sont essentielles, que l'on voit en général à Pessah, mais en réalité, c'est des questions bonnes en soi. D'accord, la Matzah, honnêtement, moi, jusqu'à présent, je n'ai toujours pas trouvé une réponse qui colle à 100% sur l'histoire de la Matzah. D'accord, parce que la Matzah, elle est prévue avant même que l'on sorte d'Égypte. Avant que l'on sorte d'Égypte, Dieu annonce bien à l'avance, ce jour-là, vous mangerez le Korban Pessah et vous le mangerez avec des matzot. Donc on ne peut pas se contenter d'avoir une vision et une lecture un peu enfantine, de se dire que si on a mangé des matzot à Pessah, c'est uniquement parce qu'on n'avait pas le temps de laisser la pâte lever, puisque c'était déjà annoncé à l'avance. Et pourtant, il est quand même écrit dans la Torah que on n'a pas traîné et on n'a pas laissé le temps à la pâte de lever et qu'on a mangé des matzot. Donc en fait, il y a deux concepts ici. Il y a celui qui était prévu par Akadosh Baruch Hu qu'il fallait manger des matzot. Et effectivement, on a mangé des matzot avec le Korban Pessah. Et le concept de on n'a pas eu le temps de laisser la pâte lever et du coup, on a eu des matzot. Et pourquoi tu n'as pas eu le temps de laisser la pâte? C'était déjà prévu, tout était déjà prévu. D'accord, on t'a pas pris ou dépourvu en te disant « Ah, vite, vite, faut partir !» On savait très bien. Et en plus, on a passé la nuit entière à être en Égypte. On n'est pas parti en plein milieu de la nuit. On avait largement le temps.
Les matzot qu'on a mangés avec Korban Pessah, c'était aussi avant la sortie?
Ben oui, c'est pour ça. On les a mangés avant.
Il y a un midrash qui dit qu'on mange les matzot parce que comme ça, ça nous fait un point commun qu'on n'avait pas avant d'être en Égypte.
Ouais.
Par rapport aux enfants de Jacob, comme ils n'étaient pas tous de la même mère, qu'il y avait les matriarches et puis les servantes.
Ouais.
Que souvent les enfants
étaient un peu orgueilleux.
Voilà, par rapport à ça.
Ouais, et alors?
Alors du coup, ça entraînait l'esclavage.
Oui.
Et donc, ils n'avaient pas ce point en commun puisqu'ils étaient toujours en train de dénigrer l'un à l'autre.
D'accord.
Le Midrash rapporte que comme ils sont sortis tous ensemble après cette galère, ils ont tous eu un point commun de manger la matzah ensemble.
Ah d'accord, ça veut dire que ce pain-là vient
on peut plus dire,
réunifier
on
le...
Les différents. On
d'accord, joli, je ne connaissais pas. D'accord, donc ce partage d'un aliment commun vient réunifier la famille d'accord, sur de mêmes bases. Quoi. Joli, j'avais pas entendu ce midrash. D'accord, joli. Donc voilà, donc il y a plein de sujets dans cette paracha, vraiment, hein, qui demandent des vraies réflexions, pas que techniques sur le texte, d'accord, mais sur les concepts qui sont abordés. Et moi, celui que j'ai développé ce Shabbat, c'est la Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. Et j'ai voulu faire comprendre que cette plaie-là de Makat Bechorot, en réalité, elle était annoncée depuis toujours. Elle était annoncée depuis le début du processus de la sortie d'Égypte. Même mieux que ça, elle est annoncée depuis qu'on a dit à Abraham, au moment de l'alliance entre les morceaux, Brit Ben Abetarim, à ce moment-là déjà, à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il dit « Sache que tes enfants seront esclaves sur une terre étrangère, etc. Mais je viendrai pour juger la nation qui va asservir tes enfants. » Le Midrash nous dit, écoutez ça. « Yit ale shemo shel Kadosh Baruch Hu, shehu magid mereshit acharit. » Que le nom de Dieu soit grandi, parce que la grandeur d'une divinité, c'est d'être en mesure d'annoncer la fin dès le début. Ça veut dire quoi, l'idée? C'est que la grandeur d'une divinité, c'est qu'elle a un plan. Elle ne se fait pas surprendre par les événements. Et que dès le début de l'histoire, en réalité, elle sait exactement où est-ce qu'elle va. Et là, ici, on nous dit, regarde la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est que depuis le début de l'histoire, il y a bien longtemps, en réalité, le projet de Makat Bechorot a toujours été prévu. Et c'était par le Makat Bechorot qu'on devait sortir d'Égypte. Comment est-ce qu'on le voit? Quand Hachem s'adresse à Abraham, donc on est bien avant l'esclavage, d'accord? Bien avant l'esclavage. Quand il s'adresse à Abraham et il lui dit « Vegam et agoy asher yaavodu dan anochi » et que la nation qui va asservir tes enfants et tes petits-enfants, je vais les juger, c'est Hachem qui dit, d'accord? Ils ne vont pas partir comme ça, je vais les juger. Le Midrash nous dit « Mahudan, c'est quoi le jugement en question ?» C'est-à-dire, quel est le jugement que tu vas réaliser, toi, Kadosh Baruch Hu, pour libérer tes enfants du joug égyptien? Réponse, Makat Bechorot. C'est Makat Bechorot. Ça veut dire que Avraham sait, depuis le début de l'histoire, qu'on sortira d'Égypte, du pays qui va nous asservir, il n'y a pas le nom, c'est vrai, mais qu'on sortira Bemakat Bechorot, par la plaie des premiers-nés. Il le sait depuis le début. Akadosh Baruch Hu l'a déjà annoncé. Il y aura Makat Bechorot dans cette histoire-là. Et, dit le Midrash, chez Nehemar, Hine anochi oreg et bincha bechorecha, et ça d'ailleurs on le verra juste dans une minute, Ve'asimanazé, Masar Akadosh Baruch Hu le'Avraham, Ve'Avraham le'Yitzhak, Yitzhak le'Yaakov, Yaakov le'Lévi, le'Lévi l'Ikhat, Ke'at le'Amram, Amram le'Moshe, Vaya Moshe Meshamrouva. On avait comme ça une tradition familiale. Avraham, qui portait en lui cette prophétie terrible de l'esclavage, il en a parlé à ses enfants. Ça, on l'a toujours su. Hein. Yitzhak savait qu'on allait partir en esclavage. Yaakov le savait. Rappelez-vous l'histoire, quand Yaakov arrive en Égypte, il a une angoisse terrible parce qu'il sait que l'esclavage va commencer. Donc, on le sait que l'esclavage va avoir lieu. On le sait. Mais mieux que ça, en fait, nous dit le Midrash. Non seulement on savait que l'esclavage allait commencer, mais on savait comment il allait se terminer. Avraham a dit à son fils, écoute, on aura une période difficile d'esclavage, mais on sortira de cet esclavage par Makat Bechorot. Il le dit à Yitzhak, Yitzhak le dit à Yaakov, Yaakov le dit à Lévi, il ne le dit pas à tous ses enfants, hein. Il le dit à Lévi, Lévi le dit à Kehat, Kehat le dit à Amram, qui est le père de Moshe, Amram le dit à son fils, et donc Moshe le garde à l'esprit et il attend. Il attend que ça se réalise. Donc, dit le Midrash, voici la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, parce que depuis le début de l'histoire, quand je dis le début, c'est avec Avraham, depuis le début d'Avraham, on annonce dès à présent la mort des premiers-nés au moment de la libération du peuple. Je continue. Et ce qui a été donc prévu depuis ce moment-là, Vea Marta el Paro, Koamar Hashem, Beni Bechori Israël, Va Omar Elecha Shalach et Beni Veya Avdeni, Vatema En Leshalecho, Hine Anochi, Oreg, Et Bincha, Yechidecha. Révélation du buisson ardent. Hashem se révèle à Moshe. Il lui dit, écoute Moshe, va voir le Pharaon. Tu vas voir le Pharaon, tu vas lui demander qu'il libère mes enfants, etc. Hein, on connaît tous l'histoire. Et tu lui diras que si tu refuses de libérer mon peuple d'Égypte, voici que je viendrai tuer tes premiers-nés. C'est annoncé depuis le début de l'histoire. C'est annoncé non seulement à Avraham, mais quand Moshe va rencontrer le Pharaon, il lui annonce dès le début, il n'y a pas de surprise, voici que j'enverrai la mort des premiers-nés et tu libéreras mon peuple. Du coup, si on dit ça, se pose la question de savoir, alors pourquoi il y en a 9 avant ? Pourquoi il y a 9 plaies avant ? Si le projet, de toute façon, c'est Makat Bechorot, et qu'on savait qu'on allait y arriver depuis le début, depuis Avraham, on sait qu'on va y arriver. Alors, et qu'on l'a annoncé au Pharaon. Et si c'est ça la libération du peuple ? Alors on n'avait qu'un faire une formule plus courte, d'accord, où Moshe va voir le Pharaon, soit tu laisses partir les enfants d'Israël, soit tu ne veux pas les laisser, voici que tous tes premiers-nés d'Égypte vont mourir. Point final, une plaie, on sort d'Égypte et c'est terminé, parce qu'on sait concrètement, d'accord, que c'est Makat Bechorot qui a fait plier le Pharaon. Donc du coup, on voit directement Makat Bechorot, d'accord, pourquoi tu nous embêtes, et que tu vas 50 fois aller le voir, repartir, et puis dire, tu me refuses, etc.
Qui aurait tué? Le Pharaon aurait tué...
Qui ? Non, en réalité.
Parce que là, ça aurait été trop d'un coup, alors que là, il était tellement affaibli.
En réalité, il n'aurait pas tué.
Il ne croyait pas dans Pharaon.
Razak, la réponse, en fait, c'est pas qu'il aurait pas, il aurait tué. Parce que en quoi il aurait tué ? Moshe, il vient, il fait une annonce. D'ailleurs, il a fait l'annonce. Le Pharaon, il n'a pas tué au moment de l'annonce. Moshe va s'en aller. Ok, donc du coup, une fois que Moshe part, Makat Bechorot tout de suite. Makat Bechorot, le pharaon, du coup, il voit la mort partout, tout le monde qui hurle, etc. Il dit, ok, c'est trop. Vas-y, sortez. Puisque concrètement, c'est ça qui va se passer. D'accord ? En fait, pourquoi on passe par les 9 plaies avant la 10e, si c'est la 10e qui finalement est la plus importante et c'est celle qui compte ? C'est la 10e. Réponse, c'est le Midrash qui nous le dit. Recoutez ça. Yitri l'Omer, Mi Hashem, Asher Ishma Bekolo. Amara Kadosh Baruch Hu. Imavinu ala. Imavinu ala makabe chorot echila meshalechan. Et la meviani alav makot acherot. Ube kevzot ani meviet kulan. Sheneemar, Vashem ika kol bechor. Le problème, c'est quoi? C'est la réaction du pharaon. Quand Moshe lui dit, écoute, tous les premiers-nés vont mourir ici. D'accord, je viens parler au nom de Dieu et Dieu me dit que tous les premiers-nés vont mourir. Le problème, c'est quoi? C'est que le pharaon dit, Mi Asher, Hashem, Asher Ishma Bekolo. Qui est Dieu pour que j'écoute sa voix? Ah, tu ne reconnais pas mon existence. Ah, alors là, on est sur un autre défi. Il y a un défi éducatif. Il va falloir que mon nom soit connu. Toi, Pharaon, qui as connu Yosef. Toi, Pharaon, qui as connu Yaakov. De quoi? Selon les deux interprétations, soit directement, soit indirectement. Mais que tu les as connus. Tu ne peux pas dire « je ne connais pas le Dieu d'Israël ». Tu ne peux pas le dire. Soit il y a une première hypothèse qui dit qu'il les a vraiment connus.
Dans l'ouverture du livre de Shemot, ils disent qu'il y a un nouveau pharaon.
Chazak, et regarde Rachid là-bas sur place, il dit qu'il y a deux interprétations. Soit c'est vraiment un nouveau pharaon, mais même si tu dis que c'est un nouveau, il a quand même connu l'histoire de son peuple. Soit tu dis non, c'est pas un nouveau, c'est le même, mais il a juste changé sa politique. Donc, l'un ou l'autre de ces deux lectures, une ou deux de ces deux lectures, de toute façon, le pharaon ne peut pas dire « je ne connais pas le Dieu d'Israël ». C'est impossible. Donc Hachem dit « ah ok, alors il y a un problème éducatif maintenant. Tu as voilà, tête dure, tu dis que tu ne connais pas le Dieu d'Israël, alors ok. On va y aller, petit à petit. J'aurais pu effectivement amener directement la dixième, allez, enfin la dixième, donc en fait une plaie, la mort des premiers-nés, et à travers cette mort des premiers-nés, hop, tu laisses passer tout le monde. Mais le problème c'est quoi? C'est que tu te serais entêté dans ta non-connaissance de Dieu. Tu aurais dit « bon, allez, il y a eu un problème, j'ai laissé partir mes esclaves, etc. » Mais l'éducation, elle n'aurait pas été faite. Alors, je vais envoyer l'éducation du pharaon. On va envoyer toute une stratégie de plaies. Il y a des plaies où je vais me manifester en tuant les dieux égyptiens. Il y a des plaies qui vont se manifester dans les eaux. Il y a des plaies qui vont se manifester dans l'espace vital de l'être humain. Il y a des plaies qui vont se manifester dans le ciel. Pour que tu comprennes, là où tu dis « qui est Dieu ?» Les Mahan Teda qui anie Hachem, afin que tu saches que je suis l'éternel sur terre, etc. C'est la façon dont Dieu se manifeste à chaque fois qu'il y a des plaies. Ok, on aurait pu envoyer que la dixième, puisque finalement c'était le projet, qu'il n'y en ait qu'une seule, Makat Bechorot. Puisque c'est le pharaon qui refuse. Ok, alors on y va. On va passer par les neuf d'abord, d'accord? On va t'apprendre qui est Dieu. En même temps, on va aussi apprendre au peuple d'Israël hein, qui est Dieu. Ok, c'est double effet. Mais la finalité, c'est Makat Bechorot. La finalité de toute cette histoire, c'est Makat Bechorot.
Qu'est-ce qu'on en tire de cette éducation de...
Ah, beaucoup. Parce que nos maîtres nous disent que le peuple d'Israël, il a construit sa émouna sur ça. Oui. Grâce au temps nécessaire pour les plaies. Parce que concrètement, s'il n'y avait eu qu'une seule plaie, Makat Bechorot, tel que c'était prévu, Makat Bechorot, ça dure un instant et on sort. Elle est où, la partie éducative du peuple? Elle est où là, le moment, il est où le moment où Moshe va parler aux enfants d'Israël en disant...
Postérieur, c'est-à-dire la mer Rouge...
Oui, mais non, c'est trop court. Ouais. Trop court. Parce qu'à travers les plaies, je vous rappelle que les Chachamim nous disent que Moshe, après chacune des plaies, il réunissait le peuple. Et on parlait de la plaie, qu'est-ce que ça représente, comment Dieu se manifeste, etc. etc. Donc, il y a toute une sorte de travail de émouna en profondeur qui va être effectué par Moshe pendant une année entière. Je vous rappelle... Première rencontre avec le pharaon, c'est le 15 Nissan. Mort des premiers-nés, le 15 Nissan de l'année d'après.
Ça marche pour le côté éducatif du peuple, qui venait de loin.
Mais et du pharaon aussi.
Mais au final, il est mort, le pharaon.
Non.
Il ne s'est pas fait engloutir dans la mer Rouge.
Non. Non, il est resté vivant.
Tu n'as pas vu le film.
Sur ça, Dafka, ils n'ont pas tort. Il n'est pas mort. Ah bon, il est resté vivant, tout le monde s'accorde à le dire. Il est resté vivant, il est même devenu... Non, il est devenu.
T'as pas vu le nom.
Il est devenu le roi de la future ville de Ninive.
Il a bien rebondi, non?
Il a très bien rebondi. Ninive, c'est pas aussi prestigieux que l'Égypte. Mais il est devenu roi de Ninive. C'est d'ailleurs pour ça. Que quand le prophète Jonas va venir annoncer à Ninive. Si vous ne faites pas teshuva, Dieu va tous vous exterminer. Pourquoi ils ont fait teshuva aussi vite? Enfin, comment c'est possible? Même nous, quand un prophète vient nous parler à nous, peuple d'Israël, d'accord, quand il vient nous dire, hey, faites teshuva, etc., on l'envoie balader, le prophète. Comment c'est possible, des gens de Ninive, d'accord, dès qu'il y a un prophète qui est arrivé, ils ont dit, oh là là, on va faire teshuva tout de suite, et ils ont fait teshuva tout de suite, ils ont été épargnés. Comment c'est possible? Non seulement ils l'ont entendu, mais le roi, c'est lui, c'est le pharaon. C'est le pharaon. Donc du coup, il a dit tout de suite à son peuple, hop, 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 c'est bon, je connais, c'est bon, on fait teshuva tout de suite. D'accord, c'est une catastrophe si on ne le fait pas. Donc non, il n'est pas mort, le pharaon. Donc il y a, oui, une volonté éducative de la, pour l'Égypte, pour le pharaon qui a voulu avoir la tête dure comme ça, et pour le peuple d'Israël en parallèle. Donc, la finalité de tout ça, c'est Makat Bechorot, c'est quand même ça qu'il faut retenir. C'était le programme prévu depuis le début. Il ne devait y avoir finalement que Makat Bechorot. C'est ça qui était prévu. D'accord? Et d'ailleurs, quand Moshe va dire au Pharaon, « Je veux que tu libères Béni Bechori Israël. » Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est ça le cœur de mon thème. C'est que Dieu dit « Je veux que tu libères mon fils aîné Israël, sinon je tuerai les fils aînés de l'Égypte. » En réalité, toute l'histoire, c'est un combat de Béchor. Tout tourne autour du Béchor, du premier-né, du droit d'aînesse. Vous dites que vous êtes les premiers-nés et qu'en titre de premier-né, vous êtes les chefs du monde, etc. Béni Béchori Israël. Moi, j'ai une autre approche. Le Béchor, c'est Israël. Et je veux que tu libères les premiers-nés, mes premiers-nés hébreux, pour que je ne tue pas tes premiers-nés à toi, Égyptiens. Si tu l'empêches, je tuerai tes premiers-nés pour libérer mon peuple qui s'appelle premier-né, Béni Béchori Israël. Le peuple d'Israël est mon Béchor. Et du coup, une fois qu'on dit ça, bien évidemment, du coup, ça ouvre une porte. On dit, mais c'est quoi ce combat de Béchor? T'as un Béchor d'un côté, c'est le peuple d'Israël, et t'as un Béchor de l'autre côté, c'est les Égyptiens, et que tout se cristallise sur, oh là là, laisse sortir mon Béchor, sinon je te tue ton Béchor. C'est quoi l'histoire du Béchor? Et en fait, et là on va découvrir un truc qui est incroyable, c'est que l'histoire de l'humanité se construit sur un conflit autour du sujet des premiers-nés. Toute l'histoire de l'humanité en réalité, c'est ça. Qu'est-ce qu'un Béchor? Et qui est le Béchor? On a un fil rouge tout au long de l'histoire de la Torah. C'est celui-là. Qui est le Béchor? Qu'est-ce qu'on appelle un Béchor dans la tradition juive? Et on a quelques sources. Je vous les donne. Écoutez ça. Si vous ne l'avez jamais entendu, c'est quand même, ça vaut son pesant d'or, un enseignement dans le Pirkei des Rabbi Eliezer. Enseignement traditionnel Pirkei des Rabbi Eliezer. Il nous dit comme ça. Rabbi Yossi Omer, un enseignement de notre Rabbi Yossi. Kaïn vehevel teomim hayu. Caïn et Hevel, c'est deux frères jumeaux. Là où en général on a une perception plus classique de se dire, ben non, pas du tout. Caïn c'est le premier, Hevel c'est le deuxième, ensuite il y en aura un troisième, mais voilà, il y a un premier, un deuxième, ils se sont disputés, ils n'étaient pas d'accord, un corban, un machin, d'accord, et puis Caïn tue son petit frère, il tue Hevel. Rabbi aussi nous dit c'est faux. On va voir une nouvelle histoire de Caïn et Hevel. Écoutez ça. Caïn et Hevel, tout d'abord, c'est des jumeaux. Comment on sait que c'est des jumeaux? Il nous dit, j'ai des sources dans la Torah. Regardez ce qu'il est écrit. Vatahar vateled et Caïn. Au moment de la naissance de Caïn, il est écrit que Chava est tombée enceinte. Vatahar, elle a enfanté. Vateled et Caïn. Et elle a mis au monde Caïn. Elle est tombée enceinte et elle a mis au monde Caïn. Ok, très bien, c'est clair. Pour la naissance de son frère Hevel, il manque un mot. Le mot Vatahar. Elle est tombée enceinte. Et nos Chachamim nous disent qu'à chaque fois qu'il n'y a pas le mot Vatahar, c'est qu'en réalité c'est la même grossesse que la précédente. C'est des jumeaux. Et ça colle, il donne toutes les sources, ça colle à chaque fois qu'il y a des jumeaux. Et donc là, il crie, pour la naissance de Hevel, il a écrit simplement « Vatosef la ledette ». Et elle a ajouté une naissance. dans le sens de, bah, elle était enceinte des jumeaux, elle a accouché, elle était enceinte, elle a accouché de Caïn, et ensuite est venue Hevel.
Dans le texte, elles sont éloignées ou pas le...
Les deux psukim, je crois que c'est un peu plus loin. D'accord, il faudrait jeter un petit coup d'œil.
Peut-être qu'on s'imagine que c'est une autre.
Khazak, peut-être à cause de ça. Donc ça déjà, c'est déjà un premier chidouche. Les deux sont jumeaux. Ok, je continue, c'est pas fini. Ve'aya Caïn ohev la avod adama, ve'evel aya ohev lirotson. Chacun a sa passion. Caïn, il aime la terre. Hevel, il aime les animaux, il aime les troupeaux. Zenoten melarto machalazé, ve zenoten melarto machalazé. Et dans un accord parfait entre les deux, chacun produisait le fruit de son travail à l'autre. Moi, je travaille la terre, je t'offre mes récoltes pour que tu manges. Toi, tu travailles avec les animaux, tu m'offres tout ce qui est nécessaire pour me chauffer, les habits, les poils, les machins, d'accord, liés aux animaux. Bien. Écoutez la suite. Higia l'El Yom Tov Shel Pessah. Voilà que le 15 Nissan est arrivé. Le 15e jour du mois de Nissan est arrivé. Amar Lahem Adam Levanav. Adam Arishon a convoqué ses deux enfants et il leur dit la chose suivante. Belelze Atidin Israël et Akriv Korbanot Psachim. Aujourd'hui, 15 Nissan, cette nuit-là, je sens qu'il y a un potentiel de liberté qui se manifeste aujourd'hui, 15e jour du mois de Nissan. Parce que je vous rappelle que dans l'interprétation juive, si Pessah a eu lieu le 15 Nissan, ce n'est pas parce qu'on est sorti d'Égypte le 15 Nissan. C'est parce que depuis la création du monde, le 15 Nissan porte en lui la notion de liberté. Et que pour nous, dans la vision traditionnelle, ce n'est pas l'événement qui fait la date, mais c'est la date qui permet l'événement. Donc Adam Arishon a un niveau de prophétie incroyable et il sent que le 15 Nissan, ce jour-là, il va y avoir quelque chose d'incroyable avec la liberté du peuple d'Israël. Et il dit à ses deux enfants, écoutez mes chers enfants, puisqu'aujourd'hui c'est un jour spécial et qu'un jour viendra où on offrira des corbanotes ce jour-là, alors je vous demande tous les deux d'offrir un corban pour Dieu. Faites un corban, faites un sacrifice. Donc c'est incroyable. C'est-à-dire que là où nous, on a l'habitude de dire, bah, un beau jour, on ne sait pas pourquoi, un beau jour, Caïn a fait un sacrifice, et puis son frère l'a imité, il a fait lui aussi un sacrifice. En fait, ce n'est pas du tout ça. En fait, c'est Adam Arishon qui a dit à ses enfants, aujourd'hui, c'est un jour spécial, vous devez faire un corban. Faites celui que vous voulez, vous devez faire un corban. Comment y réagissent les deux enfants? Caïn, Hevi, Motar Mahalo, Kelayot Zera Pishtan. Caïn, il offre des grains de laine, des graines de lin. Des graines de lin. D'accord? Et Hevel, il amène un bel animal, le plus bel animal qu'il a. Venitav Midrat Caïn, Venirtit Midrat Hevel. Le sacrifice de Caïn est refusé, est rejeté, alors que le sacrifice de Hevel est agréé. Pourquoi un est agréé et pas l'autre? Parce que l'autre, il a amené des graines de lin. C'est des petites graines qui ne sont pas belles, qui ne sont pas nobles. Petites graines noires, ce n'est pas la nourriture essentielle de l'être humain. D'accord, c'est du lin. L'autre, il a amené un bel animal, bien dodu, le plus beau parmi son cheptel, etc. Donc Akadosh Baruch Hu, il dit, attends, si tu fais un corban, fais-moi ce qui est beau. D'accord, ne m'amène pas un truc dégueulasse. Donc ton corban avec tes petites graines, je ne le veux pas. Mais je veux le corban de Hevel. Bien. Regarde, c'est la suite. Ça, en fait, ça vient de là. Ça vient de ce midrash-là. Donc, c'est important d'avoir le début de l'histoire. Et il nous dit... Du coup, ils vont se disputer les deux, ok. On connaît la fin de l'histoire. Et Akadosh Baruch Hu dit, Amar Akadosh Baruch Hu, Al itarevu minchat kain ve'evel le'olam. Shema chas ve'shalom itarevu be'erek beged, sheneemar. Sur ce, Akadosh Baruch Hu dit, ne m'offrez jamais, ne mettez jamais devant moi ces deux sacrifices l'un à côté de l'autre. le sacrifice du mécréant et le sacrifice du tzaddik, je ne veux jamais qu'ils se retrouvent l'un côte à côte. Et c'est de là que l'on n'a pas le droit de porter des vêtements dans lesquels il y a un mélange entre le lin et la laine. Le lin, c'est le sacrifice de Caïn, la laine, c'est le sacrifice de Hevel. Donc Akadosh Baruch Hu nous dit que l'origine de Sha'atnez, ça vient de là. Donc, on reprend le truc. Caïn et Hevel sont deux jumeaux. Le 15 Nissan, c'est Adam Harishon qui leur demande de faire des sacrifices. Malheureusement, il y en a un qui est agréé, pas l'autre agréé. Et ils vont s'entretuer. Et le Midrash termine que Caïn va être à la tête d'un groupe d'individus à travers l'histoire de l'humanité qui vont imiter son comportement et qui vont tourner dos à l'existence de Dieu, alors que Hevel, lui, la descendance de Hevel, on sait qu'il y a la Neshama de Hevel qui revient, ça va passer par Chet, en fait, par son frère, que Hevel va mettre au monde une descendance de grandes personnalités qui, eux, vont reconnaître l'existence de Dieu. Et quelle est la façon dont ceux qui vont tourner le dos à Dieu vont se manifester? Ils vont dire à Dieu, nous n'avons rien besoin de toi et nous n'avons même pas besoin d'une goutte d'eau pour vivre, de pluie pour vivre. On ne veut pas de ta pluie pour vivre, on veut se débrouiller seul, même pas de ta pluie. Et on nous dit que celui qui a représenté ce comportement-là, c'est le pharaon. Le pharaon, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit, moi, j'ai pas besoin de pluie. J'ai pas besoin de tourner mes yeux vers le ciel pour demander à Dieu d'envoyer de la pluie. Nous, on a le Nil. Le Nil, c'est moi qui le dirige. Le Nil, il monte et il abreuve le pays. J'ai pas besoin de ta pluie, Dieu, laisse-moi tranquille. D'accord, je tourne le dos à l'existence de Dieu. Je ne veux pas reconnaître l'existence de Dieu. Je veux rien devoir à Dieu parce que nous, on a le Nil. Donc on nous dit que le pharaon, en réalité, il s'inscrit dans le comportement renégat rebelle de Caïn. Et, dernier midrash, qui dit la chose suivante. Pourquoi ils sont en désaccord, les deux frères? C'est quoi leur problème, vraiment? Leur véritable problème? D'accord quoi? C'est juste une histoire de sacrifice? Un, il a fait du lin, l'autre, il a fait de la laine, et puis l'autre, il était jaloux, etc. C'est quoi leur véritable dispute? Qu'est-ce qui amène la mort? Qu'est-ce qui amène le meurtre de Hevel? Et là, Rabbi Lévi Amar, Shnehem natu et arkarkaot, ou Shnehem natu et amitaltelim, Velmay ou medayenim, qu'en réalité, les deux, ils sont partagés le monde. À part égale. Mais ils avaient un point sur lequel ils n'étaient pas d'accord. Lequel? Zéomer, bitroumi betamigdash nivne, ve zéomer, bitroumi betamigdash nivne. Ils étaient en dispute pour savoir sur quel territoire, puisque chacun allait se partager la terre en deux, d'accord? Ils se demandaient sur quel territoire allait être construit la future résidence de Dieu sur terre. Où est-ce qu'allait être construit le futur betamigdash? Caïn dit, c'est sur mon territoire que je le veux. Hevel dit, c'est sur mon territoire que je le veux. Dispute entre les deux, à tel point que Caïn se met en colère, il se lève contre son frère alors qu'ils sont dans un champ, et il tue son frère. Et le Midrash nous dit, le mot sadé, c'est un mot que l'on connaît, le mot champ. Pourquoi? Parce que le sadé, c'est un des noms du Beth Amikdash. En fait, ils étaient à l'endroit du futur Beth Amikdash. Ils se sont disputés en disant « c'est chez moi, c'est chez moi, c'est chez moi ». Caïn se met en colère contre son frère et il le tue. La dispute entre les deux, c'est de savoir où sera construit le futur Beth Amikdash. Mais c'est quoi cette dispute? Enfin, on s'en fout, c'est pas important quoi, il y a de quoi s'entretuer. Et en fait, la réponse, c'est le début de notre sujet. La réponse est la suivante. Vous savez que le Beth Amikdash, c'est pas simplement pour savoir où est-ce qu'il est construit. C'est pas ça la question. La question est de savoir qui sert à l'intérieur du Beth Amikdash. Qui est le Kohen? Qui est celui qui travaille à l'intérieur du Beth Amikdash? Et là, il y a un débat entre les deux. Qui est le Bechor? Parce que celui qui travaille au Beth Amikdash, c'est l'aîné, c'est le Bechor. Et donc il y a une dispute entre Caïn et Hevel pour savoir qui est le Béchor entre nous. Nous sommes des jumeaux. Si tu dis que c'était deux naissances différentes, alors bien évidemment le Béchor c'est Caïn. Mais en réalité, on ne comprendrait pas le débat. Le débat, il existe parce que ce sont des jumeaux. Lorsqu'il y a des jumeaux, qui est le Béchor ? Caïn dit, bah, c'est le premier qui voit le jour. C'est moi qui suis sorti le premier du ventre de ma mère. Et Hevel dit, pas du tout. C'est pas le premier qui voit le jour, le Béchor. Le Béchor, c'est le premier qui est conçu. Et ce débat, en fait, on l'a tout au long de la Torah. À chaque fois qu'il y a des jumeaux, le débat, il revient sur la table. Toujours. Aujourd'hui, la halakha, elle a tranché parce qu'on a la halakha. Mais à l'époque de la Torah, c'était toujours une source de discussion. Yaakov et Esav, c'est exactement pareil. Qui est le Béchor ? Toute leur vie, c'est qui est le Béchor ? Ah, tu me vends ton droit d'aînesse. Ok, je te vends le droit d'aînesse. Et la bracha, elle est pour qui ? Elle est pour l'aîné. D'accord ? Qui est l'aîné ? Ah ouais, mais tu m'as vendu le droit d'aînesse. Non, mais moi, je suis né le premier quand même. La rencontre avec l'ange de Esav, le débat, c'est quoi ? Qui est l'aîné ? D'accord, je veux, avant de te lâcher, parce que c'est le matin qui arrive, avant de te lâcher, je veux que tu me bénisses. Quelle bracha tu veux ? Je veux que tu confirmes que c'est moi le Béchor. Toute la vie de Yaakov et Esav, elle tourne sur le sujet « Qui est le Béchor ?» On retrouvera le même débat. C'est qui les prochains jumeaux de l'histoire ? Alors là encore, ce n'est pas explicite dans le texte. Mais c'est pourtant la réalité. Vous savez ? Ah non. Non, a priori, non. Éphraïm et Ménaché. C'est des jumeaux, les deux. Eux aussi, c'est des jumeaux, en réalité, nous disent nos Khachamim. Et donc, du coup, on comprend le débat. Qui est l'aîné ? Qui est l'aîné ? C'est toujours le même débat. Est-ce que c'est le premier qui voit le jour ou est-ce que c'est le premier qui est conçu ? Alors, c'est une histoire de quelque rien, hein, d'accord ? Mais qui est l'aîné ? C'est ça tout le débat. C'est l'aîné qui sert à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la règle. Mais qui est l'aîné ? Et en réalité, l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est la proclamation du fait que le peuple d'Israël, c'est lui l'aîné. Béni Bechori Israël. Le peuple juif, c'est un Bechor. C'est mon Bechor, dit Akadosh Baruch Hu. On dit, attends, mais pourtant, ce n'est pas le premier-né de l'histoire de l'humanité. Il y en a plein des nations avant le peuple d'Israël. Parce qu'en réalité, la question, c'est de celle-là. Qu'est-ce que l'on appelle l'aîné ? L'aîné, en réalité, ce n'est pas le premier qui voit le jour. L'aîné, c'est un concept. C'est le premier qui est conçu. Dans l'idée, c'est le premier qui est conçu. Or, le monde a été créé, Bereshit bara Elohim, Bishvil Israël shenikra Reshit. Le monde a été créé pour le peuple d'Israël qui est là et qui s'appelle Reshit et qui va proclamer l'existence de Dieu sur terre. D'une certaine façon, c'est le premier qui est conçu. Le premier qui est conçu dans le projet de Dieu, c'est le peuple d'Israël. Il y a d'autres nations qui vont voir le jour avant. Mais ce qu'on appelle un aîné, ce n'est pas nécessairement le premier qui voit le jour. Ce qu'on appelle un aîné dans la Torah, c'est le concept, celui qui est conceptualisé en premier. Et c'est le peuple d'Israël. Et donc, au moment de la sortie d'Égypte, vous les Égyptiens, vous dites « Non, c'est nous, on est un grand peuple, etc. On est les premiers, on est les plus imposants, les premiers, les plus forts, etc. » À que je vois qu'on vient nous dire « Non, béni Bechori Israël, c'est mon peuple Israël qui est le premier-né. » Donc le pharaon va être brisé sur ce sujet-là de Béchor. Et dès qu'on sort, qui va nous attaquer ? Amalek. Et Amalek, c'est le premier-né. Et donc il vient encore une fois nous dire « Hé, qu'est-ce que vous faites là ? C'est pas vous les premiers-nés, c'est nous !» À chaque fois, l'histoire, elle se construit autour de ce sujet. Qui est le Béchor et qu'est-ce qu'un Béchor dans la tradition juive ?
Amalek, c'est le premier, dans quel sens c'est...
Qui Amalek ? On le dit, Réchit Goïm, Amalek. Amalek est défini comme étant Réchit Goïm, la première des nations. Par rapport à quoi ? Alors bien évidemment, on peut l'inscrire, après il faut chercher d'un point de vue biographique, comment est-ce qu'il est premier-né ? Alors en fait, tout simplement, tu mets Amalek par rapport à Esav. D'accord ? Et donc du coup, nécessairement, c'est l'aîné. Donc, c'est ça le débat. Vous, les Hébreux, vous dites que vous êtes les premiers-nés ? C'est faux ! À chaque fois, on vient vous attaquer sur ça. Le Pharaon, il vient vous attaquer, le Amalek, il vient vous attaquer, etc. À chaque fois, c'est un débat avec le premier-né. Qu'est-ce qu'on en appelle un premier-né ? Il y aura exactement la même chose avec Zérah et Peretz. Vous savez, les enfants de Yehuda. Deux jumeaux, encore une fois, deux jumeaux, avec une histoire complètement hallucinante. Rappelez-vous, il y en a un premier qui ne voit pas le jour. Il sort la main du ventre de sa mère. Il sort la main. Et la sage-femme qui va lui attacher un fil. Et il y en a un deuxième qui va sortir à sa place. C'est un truc de dingue. C'est quoi le débat, là ? Tout le monde veut sortir en premier. Yaakov, c'est pareil, il tient le pied de son frère, d'accord ? Laisse-moi sortir en premier. C'est quoi le truc ? En fait, le truc, c'est ça. Pour être le Bechor, il y a un combat. Il y a un combat pour être le Bechor. Il faut se battre pour être le Bechor. Le titre de Bechor. Surtout quand c'est pas évident, parce qu'il y a des jumeaux. Qui est l'aîné ? Eh bien, la Torah, elle définit, à travers la sortie d'Égypte, « Béni Bechori Israël ». Le Bechor, c'est Israël.
La halakha, comment vous disiez, elle a tranché ?
Alors aujourd'hui, la halakha, elle a tranché. D'accord, comment elle a tranché ?
C'est le premier sorti.
Exactement, c'est le premier sorti.
Et pourquoi ils ont...
Point, il fallait trancher. Il fallait trancher.
Mais est-ce qu'on pourrait savoir qui a été conçu le premier ?
En réalité, on ne peut pas savoir aujourd'hui. Mais vous connaissez tous l'image donnée par Rashi. C'est une image qui n'est absolument pas scientifique. Ouais. D'accord, mais c'est l'image donnée par Rashi. Si tu as un tube à essai et que tu mets deux pierres à l'intérieur... D'accord, ben, quand tu vas renverser le tube à essai, la première pierre qui va sortir, c'est la deuxième qui est rentrée. D'accord, alors bien évidemment, c'est une allusion, d'accord, c'est juste une image comme ça. Et en plus, ça ne pourrait exister que si c'est des faux jumeaux. Ça pourrait marcher avec Jacob et Esav. A priori, eux sont des faux jumeaux, ils ne se ressemblent pas du tout. D'accord, mais voilà, c'est tout un truc. Mais il fallait bien trancher dans le sujet halakhiquement. Alors là, l'halakha, elle va trancher. Le premier qui sort, c'est lui le...
C'est le pidyon à l'un et pas à l'autre.
Exact, bah ouais. Bien sûr, nécessairement. Ah oui, parce qu'il y en a un qui est premier-né, pas l'autre. C'est celui qui ouvre l'utérus. C'est lui, Bechor, c'est celui qui ouvre l'utérus. La Torah va le définir comme ça. D'accord, mais avant, ça veut dire avant qu'on ait les mitzvot, etc., ben, c'est a priori le premier qui est conçu. Même dans le concept. Parce que là, ici, Israël et les nations du monde, il n'y a pas de conception. D'accord, si ce n'est dans l'esprit de Dieu qu'il y a un projet du monde. Eh bien, en fait, dans le projet, c'est Israël. Et donc, du coup, à ce titre-là, on est Bechor. Béni Bechori Israël. Vous êtes mon peuple aîné. Donc, on va à l'encontre du Pharaon, à l'encontre de Amalek, à l'encontre de toutes les autres nations qui affirment être le Bechor. Et c'est ça la chrétienté. Hein. Parce que la chrétienté, c'est Esav. Et donc, elle nous dit, bah, c'est nous les premiers-nés. Donc, on veut avoir le droit de servir Dieu. C'est à nous de le faire, c'est pas à vous. On reprend notre droit. C'est ça tout le... En réalité, c'est un débat de toute l'histoire du peuple d'Israël. Béni Bechori Israël, c'est pour ça que c'est annoncé depuis le début. C'est annoncé à Abraham. On va sortir mon premier-né d'Égypte. C'est ça, ma manifestation. Hazak Ovaour.